colle à certains humains, elles sont parfaites. C'est mieux qu'une combinaison de ski ou de, etc. Enfin, c'est pas du tout ça. En fait, nous sommes construits sur un plan, d'après un plan, qui est la Torah. Et donc, de la même manière que quand vous avez une maison, le plan de la maison, il est dans la maison. Il a donné lieu à la maison, mais il est sous-jacent à la maison, si vous voulez. Il y en a, là aussi, le plan du monde, il est sous-jacent, il est en nous. Donc la Torah est en nous. Et les Chachamim représentent la chose de la manière suivante. Ils disent que quand on réfléchit à quelque chose, on se demande comment on doit agir dans telle ou telle situation. En fait, la Torah que nous avons en nous, elle nous dit comment on doit agir. Seulement, en tout cas, après la faute d'Adam, quand on réfléchit à quelque chose, il nous vient un tsunami d'idées. Il se bouscule au point que, en général, on n'est pas capable de dire quelle a été la première idée que j'ai eue à ce sujet-là, même si en fait je ne l'ai pas du tout gardée. Mais ça va tellement vite. C'est marqué Rabot, Marchavot, Belevich, Vatsat Hashem, et parmi toutes ces pensées qui nous viennent quand on réfléchit, il y a la bonne, il y a celle qui correspond à la volonté d'Hachem. Donc le problème, c'est un problème de tri. Il y a une image qui est utilisée par les Chachamim, qui dit qu'Avraham Avinu, ses clayotes, c'est-à-dire ses reins, le rein c'est un filtre, c'est un travail de filtre. Les reins d'Avraham Avinu servaient de filtre. C'est l'image. Il a filtré toutes les autres, et il a gardé la bonne. C'est comme ça que lui, il a accompli les choses, il a accompli la Torah. Et il a fait toutes les mitzvot, sauf que la mitzvah de Mila s'est interrogée pour savoir s'il faut la faire ou pas. Non seulement il s'est interrogé lui-même, mais il a interrogé ses trois amis-là. Et des trois amis, deux lui ont dit de ne pas le faire. Et Mamré, le troisième ami, il lui a dit de le faire. Et lui, il l'a fait, finalement. Alors, certains expliquent qu'une des raisons pour lesquelles il avait un doute, il envisageait évidemment de ne pas le faire, c'est un peu étonnant, mais son idée, c'était ce qu'Abraham a accepté. Au moment de la tour de Babel. Au moment de la tour de Babel, les peuples, dit le Ramchal, les peuples se sont disqualifiés en tant que tels. Disqualifiés, ça veut dire que quand Adam a été créé, Hachem lui a donné deux choses à faire. Il l'a mis dans le Gan Eden et lui a dit sur le Gan Eden, le Ovdo ou le Shomron. C'est-à-dire, tu vas le travailler, le Gan Eden, et tu vas le garder. Vous voulez, c'est les ancêtres de la mitzvah Asé et la mitzvah Lota Asé. Le Ovdo, la Avoda, c'est faire, agir, Asé. Et Shomer, Ishamer le Chav, Shomru, etc., c'est toujours les Lota Asé. Donc, Adam savait qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bon, comme tout le monde sait, il s'est cassé la figure. Et du coup, le plan divin devait être réalisé par l'humanité tout entière. Ça incombait à l'humanité. Cette humanité-là, elle s'est disqualifiée au moment de la tour de Babel, puisque la tour de Babel, c'est l'union de tous les peuples, avec comme but de monter très très haut, de faire, comme il disait, on va lutter contre Hachem, c'est-à-dire Hachem est obligé, puisqu'il a créé le monde, il est obligé de nous donner l'énergie du monde, si on peut parler comme ça. Mais quant aux valeurs, à la façon dont Hachem veut qu'on se conduise, ben nous, ben c'est la Hachem. On va se faire un nom à nous seuls, donc on va s'inventer une constitution, on va fabriquer nos propres lois. Et donc, bon, Hachem n'a pas laissé faire. Tout ça, c'est dans les parashiot précédentes. Et à ce moment-là, si l'humanité ne fait pas les choses, ben, le plan d'Hachem, il est perdu, c'est raté, quoi. Alors, qu'est-ce qu'Hachem va faire? Il va détruire le monde. Alors, on avait vu dans les Midrashim que le Midrash dit que avant de créer ce monde-ci, il y a quelqu'un là. Voilà. Avant de créer ce monde, il en a créé beaucoup d'autres qu'il a détruits. On ne sait pas dans le détail pourquoi ces mondes qu'il a créés, eux, n'ont pas tenu le coup, ils n'étaient pas à la hauteur. Qu'est-ce qui ne marchait pas, ça on ne sait pas. Mais on sait que quand il a créé le nôtre de monde, au moment de décider de détruire le monde, au moment du Maboul, il a décidé qu'il n'allait pas le détruire, il va seulement le quasi-détruire. Bon, et il a refait la création du monde. Le monde a été créé deux fois, une première fois à l'époque d'Adam, et une deuxième fois à l'époque de Noé. Et puis, après cela, Hachem s'est engagé à ce qu'il n'enverrait plus de déluge. Beaucoup ont compris comme il détruira plus le monde. Donc, c'est un peu problématique parce que maintenant, avec la tour de Babel, le monde s'est disqualifié. Et est-ce qu'il ne va pas le détruire? Ou bien, est-ce que dans ce cas-là, pour dire, je ne détruirai plus le monde avec un déluge, mais peut-être avec feu ou autre chose, il peut, oui, le détruire. Mais en tout cas, Avram a proposé, c'est Avram, il s'est proposé, il dit, moi, je vais faire les choses. Et donc, je vais faire les choses au nom de l'humanité. Ça a l'air un peu paradoxal parce que c'est quoi ce bonhomme qui est stérile, marié à une femme stérile, bon, qui n'a pas d'enfant, et il se propose, moi, et la descendance, on va régler le problème, on va faire ce qui doit être fait. Alors, Hachem l'a testé, il a décidé que, voilà, il était à la hauteur. Donc, Hachem va, il fait une alliance avec lui, ça, la Brit Mila. La Mila, c'est entre autres un Brit, une alliance. Et voilà, la paracha de Vayéra commence là. Elle commence après que Abraham a décidé de faire la Mila. Il a fait la Mila. Il a fait la Mila de son fils Ishmaël, le fils qu'il avait eu avec Agar. Il a fait la Mila de tous ses esclaves, de toute sa maisonnée, quoi. Dans les psukim, on apprend qu'il a fait ça, Be'etzem Hayom. C'est-à-dire tout ça en un seul jour. Il y avait au moins 318, puisqu'on sait que les fameux guerriers là, pour la guerre, il y avait au moins 318 personnes, plus Abraham, plus Ismaël, en un jour. Ça fait beaucoup de monde pour faire la Mila. Donc je pense qu'il a dû les aligner tous. Il devait avoir des infirmiers qui passaient derrière et qui faisaient les pansements. Mais lui, il a coupé systématiquement. Sinon, je sais pas comment il a fait. Alors, c'est Abraham Avinu, il avait ce qui lui a été prescrit à ce moment-là, c'était seulement la Mila et pas la Pria. Nous, on a deux mitzvot, ouais. On a Mila et Pria, dégager le gland. La mitzvah d'Abraham, c'est seulement la Pria. C'est-à-dire que les Arabes qui se considèrent comme descendants d'Abraham et qui font la Mila, ils font seulement la coupure, ils ne dégagent pas, ils n'ont pas de mitzvah de dégager le gland. Alors, on nous dit que Hachem s'est dévoilé à Avraham. Avraham était dans les chênaies de Mamré. Et la Mila, il l'a faite chez Mamré. Mamré et les autres aussi, Anan et son copain, ils ont aussi fait la Mila après. Mais il a fait la, comme c'était Mamré qui lui avait donné le conseil de le faire, il s'est installé chez lui. C'est chez Mamré que il a fait la Mila. Il se trouve là, chez Mamré, sur le territoire de Mamré. Mamré avait des chênaies, je sais pas, comme ça qu'on traduit. Et Abraham est là, il est au, et Hachem, le pasouk dit, Vayera, Hachem s'est montré Elav, à lui. Donc, ici, c'est pas marqué son nom, mais on sait que c'est de lui qu'on parlait à la fin de la paracha précédente, donc on peut prendre ici un pronom, Elav. Donc, ce serait attendu que soit marqué Vayera El Avraham. Vayera Hachem El Avraham. Bon, alors, il y a déjà toutes sortes de problèmes. Pourquoi c'est marqué Vayera El Av Hachem et pas Vayera Hachem El Av? Normalement, on aurait dû écrire Vayera Hachem El Av. On ne va pas entrer là-dessus pour l'instant. Hachem se dévoile à lui. Alors Rashi dit, Hachem est venu, le vaquer est acholé. Rashi cite ici la Gemara, le Midrash. C'était Yom Shlishi le Milatoria, où va Kadosh Baruch Hu, Beshaal Bishlomo. Hachem est venu prendre de ses nouvelles, voir comment il allait. La mitzvah de Bikur Cholim. C'est-à-dire aller rendre visite à un malade. D'où est-ce que le Midrash sait que Avraham Avinu, que Hachem est venu faire Bikur Cholim? Où est-ce qu'il a pêché ça? Ben c'est Rachid l'a pris dans le Midrash, mais. Mais où est-ce qu'il le sait? Alors en fait, le texte nous dit que Hachem est venu chez Abraham et il ne lui a rien dit. Il ne lui a pas transmis. En général, quand Hachem parle avec un prophète, Abraham Avinu est un prophète, il transmet un message au prophète. Un message. Les prophètes, quand ils reçoivent un message d'Hachem, c'est ou bien un message qu'ils doivent transmettre ou un message qu'ils n'ont pas le droit de transmettre. C'est jamais eux qui décident si oui ou non ils transmettent ce qu'ils ont reçu d'Hachem. Des fois, Hachem leur parle, comme c'est marqué systématiquement avec Moshe Rabbeinu, les morts. Hachem parle à Moshe, les morts, pour que Moshe Rabbeinu répercute, redise au Bnei Israël, enfin, dise au Bnei Israël ce qu'Hachem lui a dit. Et puis, il y a certaines circonstances où le Navi, le prophète, reçoit une parole d'Hachem, une information, si vous voulez, mais qui est destinée à lui seul, peut-être parce que par la suite il en aura besoin, etc., ou pour le mettre au courant de quelque chose. Et le cas échéant, c'est si on ne lui a pas dit de le dire, il n'a pas le droit de le dire. On a vu des exemples célèbres. Rivka, elle ne dit pas à Yitzhak ce qu'elle sait sur Esav. Yitzhak ne dit pas à Yaakov qu'il sait que Yosef est vivant. Parce que tout ça, ils l'ont par prophétie et on ne leur a pas dit de le dire, donc ils n'ont pas le droit de le dire. Un prophète qui dit des choses qu'il n'a pas le droit de dire, il est chayav mita, de même que il ne dit pas des choses qu'il doit dire, il est aussi chayav mita. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui dit ce qu'on lui dit de dire et rien d'autre. C'est-à-dire, en tout cas, pas au nom d'Hachem. Tu peux demander si ça va bien, etc. Il a le droit de parler normalement. Mais quand il parle au nom d'Hachem en tant que prophète, il n'a pas le droit de parler si on lui a pas. Si Hachem ne lui a pas ordonné de parler, de le dire. Or là, il lui dit rien du tout. Rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire? Oui?
Pour ça, c'est donc il donne à tout le monde un marque avec Gaga, c'est à collège aussi.
Et la voix HaKodesh, mais ce n'est pas une voix. Voix HaKodesh, ce n'est pas aussi fort qu'une voix.
Pour l'espace, c'est
Ah ben, lui, c'était une voix. Pour Rivka, tu veux dire, ou bien pour Yitzhak par rapport à Yaakov. Ils disent que c'est une voix. Alors, l'idée, c'est la suivante. La Gemara, elle dit, il y a 613 mitzvot. Et le Gaon de Vilna dit que chaque mitzvah est en vérité un principe général. Et de ce principe, il y a une multitude de paragraphes qui découlent, enfin de situations qui sont décrites, d'accord, qui déroulent, enfin, où ce principe-là s'applique. Parce qu'effectivement, il y a des parchiotes, pas parchi, bien des. Il y a des paragraphes, si vous voulez, dans la Torah, dans lesquels il n'y a pas de mitzvah. Alors pourquoi il faut les étudier? Bon. Il y a des paragraphes là, en plus, il y a toute une paracha là dans laquelle il n'y a pas de mitzvah. Dans Vayera, il n'y aura pas de mitzvah. Pourquoi il faut étudier ça s'il n'y a pas de mitzvah? Alors le Gaon explique qu'en réalité, les parchiot dans lesquels il n'y a pas de mitzvah, c'est les parchiot qu'on doit étudier et dans lesquels on va trouver les détails de mitzvot qui sont dites ailleurs. Il y a des sujets qui sont traités, dont les détails sont traités dans des parchiot où il n'y a pas de mitzvah. Et effectivement, cette paracha de Vayera, c'est un vrai Shulchan Aruch de la mitzvah de Chesed. Bon. C'est un texte duquel on va voir, donc apprendre, toutes sortes de situations où Hachem va montrer comment on fait du chesed, comment on doit, et les hommes, certains hommes, femmes, vont suivre ce modèle. Et donc nous, on apprend toutes sortes de mitzvot concernant le chesed qui ne sont pas marquées dans la Torah explicitement, pas marquées. Tu iras voir les malades. Il n'y a pas de mitzvah comme ça. D'accord? Mais on voit par exemple ici qu'Hachem fait la mitzvah de. Hachem, il fait aussi les mitzvot. Savoir, oui. Il fait tout. On dit qu'Hachem, il fait toutes les mitzvot aussi. Et peu importe que ce soit. En tout cas, ici, ça sert de modèle. D'où est-ce qu'on sait Bikur Cholim? On sait d'ici. Il y a d'autres situations où on peut parler de Bikur Cholim. Mais il n'y a pas de mitzvah qui est dite sous la forme impérative, comme les mitzvot sont des impératifs, impératif de fait, tu dois faire ça, ou faire bikkhou ou aller en visite aux endeuillés, écouter quelqu'un qui a besoin d'être écouté, etc. Tout ce qui est de l'ordre du chesed, ici on voit tout ça. Dans toute l'attitude de, par exemple, d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un bonhomme dont on pourrait dire il est obsédé. On verra en regarder, mais il est obsédé par la mitzvah d'Aknasat Orchim. La mitzvah de recevoir des invités. Évidemment, quand Avraham reçoit des invités, sûr, il les reçoit. On va voir plus loin que Avraham Avinu, il va installer une auberge. Eschel, une des cultures de Eschel, c'est une auberge. Une auberge dans laquelle il reçoit les gens. Il a placé son auberge, on y reviendra. Son auberge, elle est sur la route qui mène à Sdom. Ça veut dire que les clients de l'auberge, ce n'est pas la crème de la crème, hein. C'est des gens qui commercent au moins avec les crapules de Sdom. Mais bon, il ne s'est pas installé à Sdom. Son neveu Lot va vouloir faire mieux que lui, il va s'installer à Sdom. On sait ce que ça va donner. Mais il a ouvert une auberge. Et quand les gens le remercient de vous avoir servi, etc., il dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, faut remercier Hachem. Donc, sa façon à lui de faire connaître Hachem, c'est par le biais de la Aknasat Orchim qu'il fait, il l'a fait pas, il l'a fait pour Hachem, pour faire connaître Hachem. Et alors, Hachem sait que Avraham va, il est toujours à l'affût de trouver des gens à inviter pour venir chez lui. Et Hachem sait qu'au troisième jour de la Mila, on n'est pas en spécialement bonne forme. Et Hachem va, il joue sur la météo. Il envoie une météo à pas mettre un arabe dehors. Il n'y a personne dans la rue. Personne n'est là. Donc Avraham, lui, il est sur le pas de la porte de sa tente et il attend. Et il est malade, pas tellement de la suite de la Mila, mais de ce qu'il n'y a personne, il n'y a personne à inviter. Hachem a eu pitié de lui, et il a parachuté trois Arabes. Avraham Avinu n'a pas vu le parachute, hein, il a seulement vu les Arabes. Il a vu trois Arabes qui sont là devant lui, mais non, ils n'ont pas, ils vont pas venir vers lui. Avraham Avinu, à ce moment-là, il reçoit la visite d'Hachem. Donc, il est en conversation avec Hachem. Il voit les Arabes. Il dit, Hachem, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Il fonce. Il court depuis le... C'est pas qu'il court quand il arrive près d'eux pour montrer. Il court depuis le pas de la porte. C'est le Midrash. Il court. Et il va les supplier de venir chez lui. Le, non, ben, nous, on n'a pas vraiment besoin, etc. Mais venez, et puis leur dire, viens, on mangera un petit bout, et un peu d'eau, et puis vous vous reposerez, quoi. Finalement, ils acceptent de venir, et il leur prépare un festin, évidemment. Et il mobilise Sarah, et il mobilise ses serviteurs, et tout se fait au galop. Tout le monde court, là. Il court. Tout le monde court. Il y a un Ramchal qui demande, qu'est-ce que les Avot ont fait de si extraordinaire pour qu'Hachem les aime tellement? Et il répond, ils ont tout le temps couru. Ils n'arrêtent pas de courir. Ils courent. Les Parisiens, les New-Yorkais, je ne sais pas, ils courent tout le temps. Alors il les fait entrer. Pour lui, c'est des Arabes. Et eux, ils vont faire semblant de manger. Bon, alors, on prépare tout. Et il dit à Sarah, prépare fais du pain, fais du gâteau, enfin, fait des matzot. En vérité, c'était Pessah, donc il fait des ougot matzot. Et bon, il prépare, certains disent, c'est l'ancêtre du Korban Pessah, etc., tout ça. Et alors, tout à coup, eux, l'un d'entre eux, demande où est Sarah, où est ta femme? Évidemment, ils savent très bien où elle est. Je ne vous ai pas dit, mais c'est des anges. Hein. Le type avait en parachute, là, c'était des anges. Sauf que c'est pas besoin de parachute. Et il demande où est ta femme? Alors il dit, Abraham répond, elle est derrière, elle est à la cuisine. Voilà. Hazal dit pourquoi il demande. Il demande pour que Abraham réponde la vérité, et que c'est une façon de lui faire remarquer la tsniout de sa femme qui, effectivement, elle s'occupe de recevoir elle aussi derrière. Et mon maître, le Rav Volbé, il disait, alors, il faut remettre les choses en place. Hein. Ça fait 70 ans qu'ils sont mariés. Lui, il est presque centenaire. Mais il faut encore faire mousser, faut faire mousser les qualités de la femme aux yeux du mari. Et il y a un diouk qui dit que ça, c'est symétrique, aussi les qualités du mari aux yeux de la femme. C'est une obligation, ça fait partie du chesed. Le chesed. Et donc, mais il y en a un qui, les trois, c'est trois anges qui ont chacun une fonction. Chacun a une fonction parce qu'un ange ne fait qu'une seule chose à la fois. Ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois. On disait la même chose le président Ford, je crois, qu'il ne pouvait pas faire deux choses, il ne pouvait pas marcher et mâcher son chewing-gum en même temps. Alors, il peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc, il y en a un qui est là pour s'occuper de la santé d'Abraham, pour guérir Abraham. C'est Raphaël, l'ange Raphaël. Et puis les deux autres, et celui-là, une fois qu'il a guéri, il s'est occupé du bien-être d'Abraham, il va s'en aller. Et dans les deux autres, il y en a un qui vient pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Et le troisième, il vient pour détruire Sodome et Amora. Sodome et Gomorre vont être détruits. Et il y a un ange qui est en charge d'aller détruire Sodome et Amora. Alors celui qui annonce à Sarah que, enfin, il le dit devant Abraham, sachant que Sarah elle écoute derrière, elle écoute aux portes, hein, Sarah. Amara elle dit, c'est normal, elle écoute. Elle écoute, elle entend qu'il y a un ange qui est en train de dire à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Alors Sarah, elle rit parce que certains disent qu'elle n'y croit pas vraiment, quoi. En fait, ce qui se passe, la Torah, elle dit que Sarah, bien sûr, elle était ménopausée. En fait, c'était un peu plus que ça, parce qu'en vérité, Sarah n'avait pas d'utérus, dit la Gemara. Et Hachem a décidé de lui donner un enfant, il a fait un utérus d'abord, enfin, en même temps, fait un utérus. Bon, tout ce qui concerne l'utérus artificiel, il y a un bouquin d'Henri Atlan, vous pouvez lire. Non, ça vous intéresse. Alors, elle rit et Hachem demande à Abraham pourquoi elle rit. lui, il lui demande où vas-tu rire? Elle dit non, je ne sais pas rire. Elle n'ose pas dire qu'elle a ri, quoi, qu'elle n'y croit pas. Mais en fait, la raison pour laquelle elle riait, certains disent, c'est parce que tout à coup, les effets de cet utérus qui lui est implanté se font sentir et elle devient Nida. Et halakhiquement, du coup, on n'a pas apporté le pain, parce que le pain qu'elle a fait, il est devenu tamé, parce qu'elle est devenue Nida. Et donc, il n'a pas servi le pain. On n'a pas pu servir le pain. On voit par la suite qu'il sert le pain. Le pain qu'elle a fait. Bon. Alors, bon, ça, c'est Sarah. Avraham Avinu, Hachem lui avait déjà dit qu'il aurait un enfant avec Sarah. Visiblement, il ne l'avait pas dit ou lui aussi, il a un peu souri quand Hachem lui a dit. Mais on explique le rire d'Avraham plus positivement que le rire de Sarah. Je ne sais pas également pourquoi. Parce que Sarah, c'est une très très grande bonne femme. Il ne faut pas oublier que Sarah, c'est une prophétesse et qu'en prophétie, elle est plus grande qu'Avraham. Quand Hachem dit à Abraham qu'il devait renvoyer Agar et Ishmaël, il lui a dit Kola sher tomar elecha Sarah, Shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute, elle est plus grande que toi, on ne voit. Tu dois lui obéir. Bon, alors cette grande dame, si, elle a, elle va avoir un enfant. Et quand elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant, elle s'est dit, comment je peux avoir un enfant? Mon mari est vieux. C'est-à-dire, elle voit qu'il se passe quelque chose, elle dit, éventuellement, peut-être les transformations qui se passent chez moi, ça va peut-être me permettre d'avoir un enfant, mais lui, c'est un vieillard. Et Hachem, il dit à Abraham, pourquoi Sarah, elle rit et pourquoi elle dit, comment est-ce que je pourrais avoir un enfant? Et Hachem dit à Abraham que Sarah a dit, et je suis vieille. C'est-à-dire qu'Hachem a transformé, il n'a pas dit à Abraham ce qu'elle avait dit. Il n'a pas dit à Abraham qu'elle avait dit, mon mari est vieux. Il a fait comme si elle avait dit, je suis vieille. On apprend que pour le shalom, pour l'harmonie dans un couple, on a le droit de mentir. Donc, vois ici, Hachem a menti. Enfin, le malach a menti, disons. Enfin, le malach a menti. À cause de Shalom Bayit, ça veut dire qu'on a le droit. Puis à ce moment-là, donc là, la tâche du deuxième ange, elle est, voilà, c'est fait, il a annoncé. Et maintenant, il y a le troisième. Et à ce moment-là, la Torah, elle dit que Hachem se demande, mais comment pourrais-je ne pas dire à Abraham que je vais détruire, faire détruire Sodome et Amora? Abraham va devenir un grand peuple, etc. Il va jouer un rôle très important, espèce de relation de confiance avec lui. Et je dois lui dire, il faut que je lui dise. Et donc il lui dit, fait savoir à Abraham que l'ange en question, là, il va aller détruire Sodome. Qu'est-ce que fait Abraham? Ben, il fait ce que Noé n'a pas fait. Donc, on a dit de Noé qu'il était un tzaddik, mais tzaddik bedorotav. Il était un tzaddik dans sa génération. On discute, est-ce que c'est négatif ou positif? Ça veut dire, est-ce que on fait l'éloge de Noar parce que bien que vivant dans une génération complètement pourrie, c'est la génération du déluge, qui mérite le déluge, lui, il s'est tenu au-dessus des autres. Ou alors, pour dire qu'en vérité, il est sadique, mais il est relativement sadique par rapport au pourri de la génération. Mais s'il avait vécu au temps d'Abraham. Noir, entre Noé et Abraham, il y a 10 générations. S'il avait vécu au temps d'Abraham, il aurait été quantité négligeable par rapport à la tzidkout d'Abraham. Et une des choses qu'on reproche à Noé, que certains expliquent que la raison pour laquelle Noé s'est saoulé, certains disent qu'il s'est saoulé parce que il a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces générations, pourquoi la génération, le monde méritait d'être détruit. Bon, qu'on a déjà parlé de ça, j'avoue que j'ai fait un chiot là-dessus. Enfin bref, il est remonté jusqu'à Adam Arichon, etc. Et il n'y arrivait pas. Il pensait qu'il faut qu'il répare le monde et il n'y arrivait pas. Et certains disent que il était en super déprime. C'est insupportable de rien pouvoir faire. Parce qu'à la limite, si on refait la même chose qu'avant, le monde va de nouveau être détruit, quoi. Et lui, de rien pouvoir faire, de ne pas avoir d'idée, de ne pas voir exactement comment on fait pour réparer, il a été déprimé pour oublier ça, il a bu, il s'est saoulé. Et on dit que quand il s'est exprimé devant Hachem, comment c'est possible, etc., que Hachem lui a dit, alors maintenant tu te réveilles tout à coup. Tu n'as jamais fait de reproche, tu t'es jamais occupé d'essayer de ramener à la raison les gens de ta génération. C'est vrai que toi, pour toi, tu as fait les choses que tu devais faire, mais tu t'es pas occupé des autres. Par opposition à Abraham, il connaît personne, enfin, il connaît pas les gens de Sodome. C'est vrai qu'il a là-bas son neveu et beau-frère. L'autre, c'est à la fois son neveu et son beau-frère. Mais le reste, il ne les connaît pas. Et il va négocier avec Hachem. Il va essayer de sauver la ville de Sodome. Ça ne va pas marcher parce qu'il n'y aura pas assez de tzadikim. S'il y a moins de 10, ça ne pouvait pas sauver la ville. Et il n'y avait pas dit tzadikim. Et donc Abraham, lui, négocie. Et puis, bon, comme ça ne marche pas, bon, il a repris. Il est revenu à la conversation qu'il avait avec Hachem. Tout l'épisode des trois Arabes, là, qui étaient trois anges, d'accord? Ça a une interruption dans sa conversation avec Hachem. Le passage dit, il est revenu à sa conversation avec Hachem. Et les deux anges sont partis en direction de Sodome, où ils vont rencontrer Lot. Ils vont y avoir une histoire avec Lot, dont on parlera après. Cette idée que Abraham, il a repris la conversation où elle était avec Abraham, avec Hachem. Il y a une question à l'Afrique. Le matin, en fait, nous faisons une bracha sur la Torah, le Kata Torah. Et puis ensuite, bon, on va prier. Et après, chacun va à ses occupations. Il est occupé une matinée, une journée entière, et il revient à la maison. Quand il revient, on vient. Et si maintenant, quand il revient, il veut étudier, normalement, la bracha sur la Torah, c'est comme une bracha de consommation. Normalement, il devrait refaire la bracha, parce que s'il avait fait une bracha sur une pomme qu'il a mangée et que le soir il veut remanger une pomme, bien sûr il va refaire la bracha sur la pomme. Et la bracha sur la Torah, sur l'étude de la Torah, est à traiter de la même manière. C'est une bracha tout à fait spéciale parce que c'est une des seules de deux seuls brachot qui sont Minatora. Il n'y a de bracha Minatora que Minatora, Birkat HaTorah et Birkat HaMazon quand on a mangé, qu'on était rassasié. Toutes les autres brachot sont toujours Midrabanan. Ouais. C'est important de savoir que c'est Midrabanan parce que ça fait que des Rabanan, c'est le coup là. Donc si on a un doute, si on a dit ou pas une des brachas du matin, etc., on le dit pas. Ça fait que bracha, le coup là. Mais ça fait que Birkat HaTorah, on doit le dire. Si tu as un doute sur Birkat HaTorah, tu dois le dire. Et si tu as mangé, t'es rassasié, et que tu sais pas si tu as fait Birkat Amazon, dans le doute, tu refais Birkat Amazon. Enfin, tu fais ou refais Birkat Amazon. Ça, c'est Midoraïta. On refait pas la bracha. Comment se fait-il que on refasse pas la bracha ce soir? Ça l'explique. En réalité, il faut considérer, on fait la bracha, et une bracha, elle doit être khal sur quelque chose. La bracha, elle doit s'accrocher à quelque chose. On fait une bracha sur une nourriture, bon, elle s'accroche en quelque sorte à la nourriture en question. C'est pour ça que si vous faites la bracha, je ne sais pas, sur un morceau de sucre que vous allez. Et le sucre en question, il tombe. Et sur la table, il y a plein d'autres morceaux de sucre. Il faut aller chercher, a priori, le morceau de sucre qui est tombé. Parce que la bracha, elle est khal sur ce morceau de sucre, en vérité. Après, elle, ça diffuse, mais c'est khal là-dessus. C'est pour ça que le Ramban explique que pour Birkat Hamazon, il faut toujours laisser un peu de pain sur la table. Bon. La bracha, elle va multiplier ça. Mais elle. Zéro multiplié par l'infini, ça donne, enfin bon, zéro multiplié par beaucoup, ça donne toujours zéro. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose, même si c'est très peu, toujours laisser quelque chose. Et donc là, la bracha, elle est chale. Parce qu'on a fait, après Birkat HaTorah, on a fait, ou bien, Birkat Kohanim, ou la Mishnah de Péa, ou, le Korban Tamid, ou enfin, chacun son minag. Donc elle était khal. Voilà, la mitzvah, elle a pris en quelque sorte. Et on va considérer que toutes mes occupations extérieures, ensuite, c'est une espèce de parenthèse. Ça n'est qu'une parenthèse. Et ce qui est important, c'est que quand je rentre, j'étudie et je continue, ça s'appelle continuer, voilà, comme Abraham Avinu. Il s'est interrompu parce que il y avait quelque chose d'autre à faire, même dans sa conversation avec Hachem, et on peut s'interrompre. Donc je m'interromps de l'occupation d'étude de la Torah parce que je dois gagner ma vie, parce que j'ai des choses à faire. L'important, c'est de revenir le soir. Et à ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait pas, l'autre, c'est une parenthèse. Il n'y a pas d'interruption. C'est pas comme si j'avais étudié toute la journée, mais il n'y a pas d'interruption entre ce que j'ai étudié le matin et le peu que j'étudie, même si c'est très peu, j'étudie quand je reviens. C'est vraiment la continuation. On n'a pas besoin de refaire la bracha. La bracha, elle a été khal, elle est toujours valable, mais c'est important, le Rambam il le dit clairement, c'est important de tous les soirs, en quelque sorte, de faire qu'une Mishnah ou n'importe quoi, même si on n'a pas le temps ou pas la force d'étudier plus, d'étudier quelque chose pour fermer la boucle. Et on apprend ça d'Avraham en conversation avec Hachem. Il s'est interrompu tout le temps de recevoir ces anges-là. Et donc c'est plein, 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 tout Arnasatochim, c'est plein de leçons sur le Chesed dans cette paracha de Vayera. Il n'y a pas de mitzvah, mais il y a plein d'enseignements dans le détail, c'est de toutes sortes de circonstances, où on applique le chesed. La Babanel. Romanel, c'est donc un riche homme. Romanel était ministre des Finances de Ferdinand et Isabelle, les rois d'Espagne, au moment de l'expulsion. Il était leur ministre de Finances. Et le Ferdinand d'Aragon, il a proposé, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il a dit à Babanel, toi, tu peux rester avec ta famille, où tu veux, etc. Restera, aucun problème, etc. L'Espagne avait besoin de lui. Mais il n'a pas accepté. Il est parti. Il s'est exilé aussi. Et il a produit énormément de commentaires de la Torah. Babanel, c'est tout le Tanakh, pratiquement, il a commenté. Et à part ça, donc, c'est un homme d'État, il a commenté Moreh Nevuchim, il a beaucoup commenté. C'est du gros travail, ces gens-là. Je voulais juste rapporter ici un enseignement de Babanel sur Lot. Alors, l'histoire, vous la connaissez. Les anges viennent et ils vont détruire Sodome. Et ils vont tester Lot. Ils vont regarder à la fois comment, en tant qu'ils sont présentés comme des touristes. La loi à Sodome, c'était une loi qui disait. Sodome était très riche, parce que on a aujourd'hui à penser comme ça, mais Sodome, c'était des pâturages extraordinaires, c'était la richesse complète. Et leur idée, c'était tout est pour nous, rien pour les étrangers, rien du tout. Et on n'accepte pas d'étrangers. Si un étranger vient, on le dépouille et on le viole. Ça, les gens savent, t'as pas avantage à essayer d'entrer à Sodome. Le Midrash dit des choses terribles sur Sodome. Effectivement, c'est à ce point inhumain que Hachem a décidé de détruire Sodome et les villes alentours qui étaient sur le modèle de Sodome. Il y avait Lot là-bas. Et Lot, c'est le beau-frère, comme je vous ai dit, est le neveu d'Abraham. Et c'est quelqu'un qui, ça aussi en entrant, au début, il a pensé, il a été éduqué par son oncle. Et il a pensé qu'il pouvait faire mieux qu'Abraham. Moi, je vais aller à Sodome et je vais les obliger à accepter les valeurs d'Abraham, en fait. Ça fait partie de ses illusions. Il a pensé qu'il était capable de le faire. Et à l'époque où les anges arrivent chez lui, il vient d'être nommé juge à Sodome. Et il pense, voilà, maintenant je suis juge, je vais juger selon les principes d'Abraham. Les autres, il n'y avait pas question. Si on t'a nommé juge, c'est pour que tu arrêtes de nous casser les pieds et qu'on va te mouiller dans toutes nos affaires. Comme ça, tu ne pourras plus nous casser les pieds, nous raconter tes valeurs. Tu auras fait la même chose que nous. D'accord? Tu seras aussi pourri que nous. Donc, c'est terminé. Leur façon de venir à bout de Lot. Lui, il a cru qu'on l'a nommé et qu'il va pouvoir faire ce qu'il voulait. Mais c'était un piège. Alors, il arrive et Lot les supplie de venir chez lui, qu'il a appris chez Abraham. Finalement, ils vont accepter. D'abord, ils ont dit non, on va passer la nuit dans la ville parce qu'ils voulaient tester, regarder qu'est-ce que les habitants vont leur faire, vont leur faire. Ils sont dans la rue comme ça et qu'ils sont as d'hommes. Parce que les gens vont leur faire. Et puis, ils sont chez Lot. Et immédiatement, toute la populace est devant la porte de Lot. Et ils disent à Lot, donne-nous les deux touristes là, qui sont chez toi, qu'on les connaisse, c'est-à-dire on va tranquillement les violer, on les dépouiller. Et Lot, il discute, il dit non, faites pas ça, etc. Ils lui disent, mais pour qui tu te prends? Tu vas nous changer la loi là. La loi de Sodome, c'est que voilà, c'est comme ça qu'on traite les gens. Et ils allaient défoncer la porte. Bon, les anges, à ce moment-là, sont tirés comme anges. Ils ont rendu les gens quasiment aveugles. Ils ne trouvaient plus la porte, etc. Donc, voilà. Mais entre-temps, Lot, il leur a proposé, il leur a dit, mais écoutez, les gens qui sont venus chez moi, ne les touchez pas. Et, voilà, c'est Ardas à ton crime. Mais j'ai deux filles, voilà. J'ai mis les filles devant. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos filles. Alors, tout le monde est au scandale, bien sûr. Lot, il a quasiment offert ses filles à la populace. Mais en fait, la populace, elle n'en voulait pas. Eux, ils voulaient. Ce n'est pas des pulsions sexuelles que ces gens avaient. Le viol chez eux, c'était une façon de d'écraser le bonhomme. D'accord? C'est tout. C'est pas. C'est ça leur idée. Donc, les filles de Sodome, ils n'en ont rien à faire. Ces filles-là. Mais la démarche de Lot est incompréhensible. Comment il peut à la fois faire place à ton crime? Et à la fois livrer ses filles comme ça. Alors, Rachid, Ramban, le PT d'Arabe Lezer, tout le monde crie au scandale. Et le Rabanel, il a une position un peu différente. Il dit que pour lui, cette pratique abominable de Sodome, c'était un mécanisme légal pour empêcher les gens de s'installer à Sodome. Et c'est parce que justement la loi à Sodome était une loi absolument qui est en opposition complète avec les valeurs humaines, quoi. C'était inhumain de faire ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que ça a été détruit. Le homme a été détruit. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, en fait? Eux, ils veulent. Lot, pardon. Lot pensait que ses filles allaient le représenter. L'Abamanel, il dit, pas du tout. C'est pas qu'il a livré les filles. Non, elles me représentent. Elles me représentent, moi, citoyen de Sodome. Mais qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait? Comme je vous ai dit, les gens, ça ne les intéressait pas, les filles de. Et normalement, un père, pour ses enfants, ses filles, ses femmes, il va se battre. Et lui, là, il a l'air de. Dans le discours, en tout cas, il leur dit, faites ce que vous voulez. De Chazal. On voit que Abravanel a compris que Lot avait quatre filles. Deux étaient mariées avec des gens bien à Sodome, et deux étaient fiancées. Et donc lui pensait que les filles là, les fiancées, ils vont venir, si jamais on voulait faire du mal, eux c'est les citoyens de Sodome, ils vont venir, ils vont défendre leurs fiancées. Donc, il voulait changer la mentalité des gens qui sont là, qui sont invités chez lui. Il voulait que on respecte ces gens-là. Mais les gens n'ont pas accepté du tout ce que disait Lot. On dit, tu n'as pas unilatéralement le droit de changer la loi. Et donc, finalement, ils ont rien fait aux filles, bien sûr. Et les anges ont dit à Lot, dépêche-toi, il faut partir, il faut tout abandonner. Et comme Lot traînait les pieds, en quelque sorte, ils l'ont pris sa femme et ses filles, et les Malachim les ont tirés. Ils ont sorti de ce dôme. Et ce qu'on sait, ce que la Torah nous dit, c'est que la femme de Lot, elle a transgressé l'indication qui avait été donnée à Lot, tu n'as pas le droit de regarder derrière. Elle a regardé derrière, elle a été changée en statut de sel. Pourquoi du sel? Dans le Midrash, je dis la chose suivante. La femme de Lot, elle est, quand ils ont reçu les deux invités, elle est allée chez tous les voisins en disant que prêtez-moi du sel, on a des invités. Prêtez-moi du sel, on a des invités. Une façon directe de dire à tout le monde, et ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc elle a fait elle tout le travail, de dire à tout le monde, on a des invités. Et c'est pour ça que tout le monde s'est rassemblé tout de suite. Alors, elle n'est pas allée dire directement des invités. Elle a dit, prêtez-moi du sel, on a des invités. Donc parce que c'était quand même un moyen détourné de faire savoir que on va appliquer la loi de Sodome à ces gens-là. Alors elle a été punie en fait. Et certains disent que Lot, il avait bien suffisamment de mérite, c'est-à-dire plus exactement les mérites d'Abraham et de son tel, qu'il pouvait sauver Lot, mais Lot n'avait pas le droit de voir Sodome détruite. Alors l'Abravanel, il dit ce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire il fallait qu'il rompe complètement avec le passé. Non seulement tu ne pouvais rien prendre, il a rien pu prendre, il a été très riche, mais il n'a rien pu prendre avec, mais à la limite, il dit à Abravanel, il a quand même laissé des filles là-bas, les deux filles mariées. Elle ne voulait pas venir. Et les gens ont dit, c'est de la blague, ils ne vont pas détruire. Ils vont pas détruire Sodome, ce n'est pas possible. Donc eux, ils sont restés. Et donc, la mère et le père de ces filles-là, y avait quand même une certaine difficulté à abandonner leur fille là-bas. Et ce que les anges disaient, c'est une rupture complète. C'est un autre monde. Tu entres dans un autre monde. Tu n'as plus rien à voir avec ton passé, en quelque sorte. Une espèce de Lech Lecha qui est dit à Lot. Autre chose. On ne sait pas ce qu'il en a fait, évidemment, Lot, mais elles, les filles, elles pensent effectivement, tout autour d'elles est détruit, toutes les villes alentours sont détruites. Elles pensent que le monde est détruit. En soi, c'est intéressant de voir que le souci de ces deux filles, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce. Elles pensent qu'on est les seuls survivants du monde. Et voilà. Il n'y a pas d'homme pour nous. On n'a pas sauvé des hommes pour nous épouser. Alors elles décident, ils sont obligés d'assurer la pérennité du monde. et que le seul homme avec lequel elles puissent le faire, c'est leur père. Mais elles pensent que leur père, il ne voudra pas. Alors elles décident qu'elles vont l'enivrer et elles vont avoir des rapports avec lui dont il ne sera pas conscient. Alors, dans les psukim, on voit qu'effectivement, le premier coup, il n'a rien. Le deuxième, il a subodoré quelque chose. Mais Chazal disent qu'en réalité, l'attrait de Sodome pour lui, ce n'était pas seulement c'était très riche, mais les mœurs dissolues de Sodome, ça l'intéressait aussi un petit peu. Donc, tu étais intéressé par ces choses-là, voilà, tu vas l'avoir. Et donc, ils ont mis au monde deux garçons. L'une a appelé son fils Moav, c'est-à-dire, ça vient de Av, il vient de mon père. Il porte un nom qui dit qu'il est le fruit de la relation de cette fille avec son père. Et l'autre, il s'appelle Amon, c'est mon peuple, quoi, c'est le même peuple. C'est moins explicite dans le deuxième que dans le premier, mais bon. Ils n'ont pas pu s'empêcher de donner un nom, peut-être parce que c'est comme ça. Un nom, ça doit représenter vraiment la personne. Donc, la caractéristique de ces deux personnages, Amon et Moab, c'est justement d'être le produit de la recherche des filles qui voulaient assurer la pérennité de l'espèce. Cet ascendant, enfin, ces deux personnages vont donner naissance à deux peuples, Amon et Moab. Et ces peuples, même quand Hachem a décidé de détruire certains peuples, ces deux peuples, Hachem a dit, ces deux peuples-là, je ne les détruis pas. Parce qu'ils vont jouer un rôle fondamental. C'est déjà un sujet en soi, mais les deux peuples en question vont jouer un rôle fondamental dans la chaîne du Mashiach. Moab va produire une princesse, une des deux princesses. Et cette princesse-là, tout le monde la connaît. Bon, elle s'appelle Ruth. C'est l'ancêtre du Mashiach. Ruth, c'est l'ancêtre de David et l'ancêtre du Mashiach. Et dans le peuple d'Amon, il y a une femme de Shlomo HaMelech. Naama. Et donc, ces peuples sont préservés. Parce que Hachem dit, j'ai deux pierres précieuses, si vous voulez, que je veux récupérer dans ces deux peuples. C'est très, très étonnant. Vous voulez que dans la chaîne du Mashiach, à des endroits fondamentaux, on a deux filles de ce peuple. Issus d'un inceste, de ces peuples qui sont issus au départ d'un inceste. C'est vrai que c'était a priori un inceste, c'était pas vu, pas pour le plaisir ou pour inventer des nouvelles façons de vivre, etc. Mais parce que dans le souci d'assurer la pérennité de l'espèce, peut-être c'est cet élément-là qu'elles mettent dans la chaîne du Mashiach. Voilà. Il y a encore le grand, grand sujet de Vayera, c'est quoi? Agueda Titzrak. Non, il y a une question. Agueda Titzrak. Voir avec vous ce qu'en dit le Meshech Chochma. Meshech Chochma, c'était un des Gdolim, un des géants, juste avant la guerre. Lui est un autre géant, s'appelle le Rogat Schober, était deux rabbanim dans la même ville. L'un était, Rogat Schober était le rav chez les Chassidim, et Rav Meir Simcha, le Meshech Chochma, était le rav chez les Ashkenazim, enfin, chez les Ashkenazim, chez les Ukrainiens. Tous les deux, le Meshech Chochma, il a écrit Meshech Chochma, qui est un pérouge sur la Torah. Il a aussi écrit un pérouge très très important sur le Rambam, qui s'appelle Or Sameach. À part ça, des Kiddushim, etc. Impressionnant, la richesse de ces Meshech Chochma, c'est impressionnant. Alors, le pasouk dit Vayi achar advarim haele, vaelokim nissa et Avraham. La Kedat Yisraël, elle commence comme ça. Vayi achar advarim haele, vaelokim nissa et Avraham. Après ces paroles ou ces choses-là, Elohim a éprouvé Abraham. Alors, de quoi on parle? Alors, c'est une des raisons qui sont données pour expliquer cette épreuve qu'Hachem a infligée, a imposée à Abraham. Cette épreuve, elle est présentée comme l'épreuve des épreuves. C'est la dixième épreuve d'Abraham. Et Hachem lui dit, écoute, il faut que tu réussisses cette épreuve parce que sinon on dira que les neuf autres, c'était du pipeau. Donc, quelque part, Hachem dit à Abraham, voilà, il y a une épreuve, il faut que tu réussisses. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Il y a eu un moment où Abraham s'est installé à Gaza, dans le pays des Philistins, dans cette bande qu'on connaît aujourd'hui. Et de même qu'en Égypte, les rois s'appelaient tous Pharaon, Pharaon, là-bas, dans cet endroit, ils s'appelaient tous Avimelech. Et donc, bon, il y a eu des frictions avec Abimelech quand Abraham s'est installé là-bas, mais finalement, Abimelech a proposé une alliance à Abraham. Abraham a proposé une alliance. Donc, Abraham a fait une alliance avec Abimelech. Il a fait un brit avec Abimelech. Hachem n'a pas du tout apprécié. C'est quoi ça? Il fait une alliance avec Abimelech. Comme tu as fait une alliance avec moi. Alors, la règle générale, c'est que tout ce qui concerne Hachem, bon, c'est toujours unique. C'est-à-dire, si quelqu'un craint Hachem et il craint aussi quelque chose d'autre, ça s'appelle pas craindre Hachem. Aimer Hachem et aimer aussi autre chose, ça s'appelle pas aimer Hachem. Une alliance avec Hachem ne peut être avec Hachem. Tu fais une alliance avec Hachem, tu peux pas faire une alliance avec quoi que ce soit d'autre, qui que ce soit d'autre. Ça fait partie de Hachem et Echad. C'est l'unicité, l'unité d'Hachem. C'est entièrement avec lui et rien d'autre. Donc Hachem n'a pas apprécié qu'il y ait un Brit qui se présente comme comme une alliance de défensive, etc., entre Abimelech et Abraham. Donc c'est comme si, et donc il dit à Abraham, on ne peut pas réparer ça. La seule réparation possible, c'est que tu me donnes tout. Donne tout. Et Hachem va proposer, va dire à Abraham, tu vas me donner ton fils. Tu vas me sacrifier ton fils. Plus exactement, Hachem a dit, allez où le hola? Bon, faut que j'explique un peu. Une hola, vous entendez dans hola la notion d'élévation. Une hola, c'est en français, ça s'appelle un holocauste. C'est-à-dire, c'est un korban qui est entièrement consumé. Il y a des korbanot qu'on apporte, où on met un peu de la viande sur l'autel qui brûlait, mais tout le reste est mangé. Ou bien mangé par des kohanim, ou mangé par les propriétaires, ceux qui ont amené le korban. Et puis il y a Korban Ola, tout est brûlé. On va dépecer l'animal, etc. La peau, on la donne au Kohanim, mais cet animal, ce qu'on met sur l'autel, c'est-à-dire la viande qu'on met sur l'autel, elle est entièrement, c'est toute la viande de la bête, est entièrement consumée. Alors, sur le Mizbéach, c'est consumé, c'est mis sur le même plan que consommé. Quand les hommes, Kohanim ou Baalim, mange, il consomme, ou bien sur le misbéar, c'est consumé. Bon, ça, faut rien dire parce que c'est du français, c'est pas de l'hébreu, mais bon, c'est facile à se rappeler. Non. Alors, Hachem a dit, allez où, tu vas l'élever en Ola. Alors, si maintenant, supposez que vous deviez. Parce que ça arrive des cas, il y a des cas où la Torah nous prescrit d'apporter un korban olah, ou bien vous pouvez avoir envie d'apporter une olah. Vous avez envie de. Les korbanot, c'est fait pour se rapprocher. D'accord, la traduction sacrifice, elle est complètement à côté de la plaque, quoi, mais il n'y a pas de traduction française. C'est un korban, la racine de korban, c'est karov, c'est kouf rishpet. Et se rapprocher. C'est quelqu'un qui se sent éloigné d'Hachem de faire quelque chose qui me rapproche. Alors, supposez que vous ayez décidé d'apporter une hola, ou bien vous êtes obligé. Alors, vous allez dans votre bergerie, vous prenez un agneau et vous dites, cet agneau-là, je vais l'apporter en hola. Donc, de l'avoir désigné comme Ola, son statut change, vous n'êtes plus vraiment le propriétaire, au sens où vous pouvez plus le faire travailler, vous pouvez pas le tondre, vous pouvez rien faire avec. Mais bon, il y a un deuxième temps, cette Ola, il y a une mitzvah de l'amener au Beth Amikdash pour qu'on en fasse la shrita et qu'on fasse toute la procédure avec le travail sur le sang et le travail sur la viande consommée. Et le travail du sang, c'est d'asperger des petites gouttelettes de sang sur le misbéach. C'est ça qui apporte la kapara, le cas échéant. Donc, ça se joue en deux temps. Il y a le statut de l'animal qui change dès le moment où vous l'avez désigné comme étant votre hola. Et ensuite, il y a qu'est-ce que je fais d'une hola? Je ne peux pas travailler avec, je ne peux rien faire, je dois l'apporter. Alors j'ai un certain temps pour l'apporter, si c'est un éder, etc. Bon, tout ça, c'est technique. Donc, c'est un deuxième temps. Ce qu'Hachem a dit à Abraham explicitement, c'est seulement aller où le hola. Donc en vérité, ça peut vouloir dire, tu donnes à Yitzhak un statut de Hola. Effectivement, Yitzhak deviendra une Hola Et une des halakhot d'une Ola, c'est qu'elle ne peut pas sortir du territoire d'Eretz Israël. Une Ola, on n'a pas le droit, l'animal, on ne peut pas le faire sortir d'Eretz Israël. Et donc, Yitzhak Avinu, quand il est une Ola, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas lui qui va chercher une femme pour lui-même. Il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. C'est pour ça que c'est Eliezer qui va aller chercher une femme pour lui. Donc, il y a la possibilité de dire, voilà, il a un statut maintenant particulier. Et puis, il y a aussi l'idée que, bon, ben, maintenant, on va en faire un sacrifice, quoi. Avoir un vélo toute sa vie, il a lutté contre le sacrifice humain. Si vous voulez, quand quelqu'un apporte un corban, un sacrifice, d'abord parce qu'il en a besoin, parce que la Torah lui a prescrit de le faire. Alors, normalement, il devrait penser que tout ce qui va arriver à l'animal, en fait, aurait dû lui arriver à lui. Seulement, comme Hachem ne veut pas de sacrifice humain, alors il ne faut pas le dire à l'inspira, mais on a remplacé l'humain par l'animal. Ou éventuellement une galette végétale, une crêpe, certains cas. Et donc, Abraham s'est demandé, qu'est-ce que je fais? Ce qu'Hachem lui demande de faire, c'est quelque chose que pendant toute sa vie, Abraham a lutté contre cette idée-là. Maintenant, Hachem lui dit de le faire. La Torah raconte qu'Abraham, il a dit à son fils, dit, on va aller, il n'a pas dit, comme vous savez, ça se dit, vous l'avez chanté à Rosh Hashanah, etc. D'accord? Enfin, c'est pas les Sfaradim. Ils marchent ensemble. Et à un moment donné, Yitzhak Aminu, il a 37 ans, hein, à ce moment-là. C'est pas un petit gosse. Abraham ne peut pas le ligoter. Abraham, c'est un grand vieillard. Bon. Et Yitzhak, c'est un adulte. Donc, ils marchent ensemble. Et Yitzhak, il dit à son père, on a pris le feu, on a pris une machette, enfin un couteau. Et il est où l'animal qu'on va sacrifier? C'est un dialogue terrible, quoi. Et Abraham lui dit, Elohim yirei lo aseh beni. Elohim choisira lui-même l'agneau, mon fils. Alors le problème, c'est si tu mets une virgule après l'agneau, ou pas. C'est-à-dire, est-ce que Hachem choisira comme agneau mon fils? Ou est-ce que Hachem choisira l'agneau? Dieu mon fils, parce qu'il parle toujours à son fils en disant mon fils. Il n'y a pas de virgule dans la Torah. Et il sera comprend. Alors c'est tout à fait paradoxal, parce qu'il marche dans la combine. Voilà. Il va se faire égorger parce que son père, il s'imagine qu'Hachem lui a demandé une chose pareille. La chose que son père a enseignée toute sa vie comme étant une abomination, son père maintenant, il va lui faire à lui. Et lui, il y va. Quand ils arrivent, pour le moment... Yitzhak, il dit à son père, il lui dit, tu sais, je ne peux pas garantir que quand je verrai le couteau arriver, je ne vais pas avoir un mouvement de recul. Et si je bouge pendant que tu me fais la shrita, elle ne sera pas cachère. Si tu trembles ou si l'animal tremble, il faut, ça doit être très net. Donc, si je bouge, Tu m'auras massacré, tu m'auras tué, mais tu n'auras pas fait de corban. Alors, tu sais, le mieux, c'est que tu me ligotes. L'akéda, ça veut dire la ligature de Yitzhak, c'est Yitzhak qui l'a demandé, pour ne pas bouger, pour être sûr que la shrita soit bonne. Comme vous savez, à la dernière minute, Abraham a reçu un ordre de ne rien toucher. Chazal disent qu'Abraham Avinu, il a négocié, il dit, je voudrais faire une entaille quand même pour passer à l'acte, quoi, quelque part, ce que tu m'as demandé de faire. Hachem m'a dit, rien. Alors, comme vous savez, Abraham a regardé autour de lui et il a vu, il y avait un buisson, et dans le buisson, il y avait un bélier. C'était pris les cornes qui ne s'en sortaient pas. Abraham est allé, il a pris le bélier, il a fait la shrita, il a fait une hola à la place de son fils. Ce faisant, Abraham Avinu a inventé le korban de substitution. Les korbanot, Adam Arishon, Caïn, Hevel, Noach, beaucoup d'autres ont apporté des corbanotes. C'était des offrandes. Personne n'a amené un animal à la place d'autre chose. Abraham, il a inventé en quelque sorte une nouvelle sorte de corban. Le corban en lieu et place du corps humain. Corban animal en lieu et place du corps humain en un corps animal. Et à partir de ce moment-là, ils vont redescendre de Moria sur lequel s'était passée cette affaire, chacun de son côté. À partir de ce moment-là, le patriarche du clan d'Israël, c'est Yitzhak. C'est plus Abraham. Abraham, il va partir. Et vous vous souvenez que le nom d'Abraham, le nom initial d'Abraham, c'était Avram. Hachem lui a changé son nom, il a ajouté un hey. Si, comme il a changé le nom de Sarai en Sarah. Et Avraham, ça veut dire Avraham Goïm. Il est le père d'une multitude de peuples. Cette multitude de peuples, bon, c'est vrai qu'il y avait Ishmaël, donc il est le père. Il va aller à un endroit et c'est le paradoxe, c'est Yitzhak, son fils, va lui trouver une femme, Abraham. Sarah est morte. Sarah, elle est morte à l'époque, autour de la Akedah. Et Yitzhak va chercher une femme pour son père. Une femme, il va trouver une femme qui s'appelle Ketura. Ketura, c'est l'encens. C'est la chose la plus, dans tout ce qu'on offre à Hachem, c'est la chose la moins matérielle qui soit. C'est un nuage d'odeur, quoi. Donc c'est quelqu'un de parfait, quoi. Et beaucoup disent, beaucoup, ça veut dire Rachid et d'autres, que Ktura, c'est Agar. Que Yitzhak est allé chercher Agar et il l'a ramené chez Abraham, et qu'Abraham a réépousé Agar et il a eu des enfants de Agar. Ils sont devenus les fameux nombreux peuples qu'avant sa mort, Abraham a envoyés vers l'Est. Ils ont chassé pour que il ne conteste pas l'héritage qu'il allait donner entièrement à Yitzhak. Et donc, il va avoir des enfants, Abraham, qui ne sont pas des Bnei Israël. Ils sont plus dans, c'est plus des Juifs, quoi, en fait. Ils vont pas donner des Juifs, quoi. Et le nouveau patriarche, oh, c'est pas un titre, il n'y avait pas un couronnement du patriarche, mais le Maasé maintenant, le patriarche, celui qui dirige le clan Israël, qui représente le clan Israël, c'est Yitzhak Rabin. Yitzhak, c'est un personnage tout à fait particulier, parce que certains disent qu'en réalité, il est quasiment mort sur l'autel, et qu'il a reçu une deuxième neshama. Les kabbalistes disent que la neshama initiale, l'âme initiale de Yitzhak Avinu était une âme féminine. C'est pour ça qu'il pouvait pas, il n'aurait pas pu être le patriarche du clan Israël. Mais ce qu'il a reçu comme deuxième neshama, c'est une âme masculine. Qu'il a rendu capable, justement. Mais bon, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de tellement énorme que finalement, Rivka, sa femme, elle ne va pas pouvoir vraiment parler avec lui. C'est un peu comme vous ne pouvez pas parler avec les gens qui sont sortis d'Auschwitz, tu peux leur parler d'égal à égal, tu crois? Parler une fois avec quelqu'un qui était sorti de toutes sortes de ghettos, aussi à Auschwitz, etc. Il a survécu, perdu toute sa famille, sauf un oncle. Il a construit une nouvelle famille, il a marié ses enfants, très très bien. Il m'a dit, tu sais, j'ai marié tous mes enfants, mais je peux pas me réjouir. La personne qui habitait en dessous de lui m'a dit que toutes les nuits, elle l'entend marcher, ce moment-là. C'est un juif, de Poum, de facilite, quoi. Et on ne peut pas parler. Rivka, elle ne peut pas parler avec Israël. Le Baron Kotler, il écrit un truc dans ce couple. C'est le premier couple de la Torah. Un couple qui était entièrement juif, quoi, au départ. C'est marié juif, quoi. Avram et Sarah étaient ensemble, et ensuite ils ont évolué ensemble, mais le premier mariage juif, quelque part, si on peut parler comme ça. Mais c'est un mariage où ça ne parle pas ensemble, ils ne parlent pas ensemble. Je vous ai dit pourquoi Rivka ne pouvait pas dire ce qu'elle savait des sages Abraham, parce que à cause de la nevoah. Mais de façon générale, c'est pas qu'ils s'entendent pas, mais est-ce que tu peux parler avec quelqu'un qui a une expérience pareille, quelqu'un qui avait le couteau sur la gorge de son père? Alors, ce dont je voulais parler, mais on parlera pas de ça, puisque M. Chochma, il fait remarquer que on présente toujours cette Akeda comme une épreuve d'Abraham. Pourquoi on ne le présente pas comme une épreuve d'Yitzhak? J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une épreuve d'Yitzhak, d'accord? Qui lui n'a même pas entendu de parole, même ambiguë, même si, et qui va suivre ce que son père lui demande de faire.